Chapitre 60. 4 octobre 1998, 7h19. Allô ? Jennifer ? Mark n'avait pas quitté la salle des archives de l'Est républicain. Sa collègue des renseignements de France Télécom était de garde tout le week-end. C'était son seul atout. Il ne devait pas le gâcher. Jennifer ? C'est encore Mark. J'ai besoin que tu me rendes un service. Un immense service.
Tout ce que tu veux, tu le sais bien.
J'ai besoin d'un téléphone et d'une adresse. Mélanie Belvoir, B-E-L-V-O-I-R.
Où ça ?
Cherche d'abord dans les départements du Jura et du Doubs, puis partout en Franche-Comté, puis en France.
Ça roule.
Marc entendait le son ouaté des doigts de Jennifer qui s'activait sur un clavier. Il n'arrivait pas à détacher son regard de la photographie sur la page de l'Est républicain de 1980. Cette ressemblance surréaliste. Qui pouvait être cette Mélanie Belvoir ? Il existait forcément une explication rationnelle.
« Désolé, Marc. »
fit la voix de Jennifer.
« Nada sur toute la ligne. Aucune Mélanie Belvoir, ni dans le Jura, ni ailleurs en France. »
« Elle est peut-être sur liste rouge ?»«
Ouais, j'ai vérifié aussi. Nada. »«
Merde. Tu as d'autres Belvoir en France ?»
Attends. »
Nouveau bruit de doigts mitraillettes dans l'écouteur.
« Ouais, 348. »
« Et dans le Jura ?»«
Je te dis ça. Ah, ça diminue. 23 seulement. Ah, mais pas de Mélanie. »«
Merde. Elle a peut-être changé de nom ?»«
C'est qui, cette Mélanie ?»«
Ce serait super trop long à t'expliquer. » Une histoire de fou, mais je n'ai plus que quelques minutes pour inventer la fin. Jennifer, tu peux essayer de vérifier sur les demandes de résiliation, toujours au nom de Mélanie Belvoir ?
Tu fais ça comment ?
Tu vas dans les archives. On y a accès si l'on se met sur le compte administrateur. Tu peux faire des recherches sur les demandes de résiliation de ligne depuis qu'on est informatisé. 15 ans au moins.
C'est interdit, Marc, se mettre sur le compte administrateur. C'est un truc à se faire virer.
Oh, tu parles. Je l'ai fait 10 fois. S'il te plaît, Jennifer, c'est urgent.
Ah, je te préviens, mon garçon, ça va te coûter un restaurant en tête à tête. Étoile au Michelin et tout le tintouin.
Ok, ok. Tout ce que tu veux. Fonce. Marc entendit à nouveau les touches de l'ordinateur crépiter. Jennifer, je suis fiancé, tu vois. Plutôt que le restaurant, tu ne préférerais pas devenir la marraine d'un petit bébé que tu aurais contribué à sauver ? La réponse cingla.
Et puis quoi encore ? Rien à foutre de ton chiard. Minimum 2 étoiles, le resto. Je le mérite bien. Je l'ai trouvé, ta fille. Elle a résilié son abonnement il y a 5 ans, le 23 janvier 1993. À l'époque, elle habitait au 65 rue du Comte de la Suze, à Belfort. Et depuis, pchit, disparue dans la nature.
Jennifer, vérifie les demandes de transfert d'appel.
Quoi ?
Les transferts d'appel. Le plus souvent, quand les clients résilient un abonnement, c'est parce qu'ils déménagent ou qu'ils vont habiter chez quelqu'un d'autre. Alors ils demandent que l'on transfère leur ancien numéro sur le nouveau, pendant quelques mois. Ça aussi, c'est archivé et accessible sous le compte administrateur.
T'es dingue. 3 étoiles, le resto. Et champagne à volonté.
Ok, ok. Avec des violonistes hongrois et même des Chippendales, si tu veux.
Un peu que je veux.
Marc resta à l'écoute. Les secondes lui parurent interminables.
T'avais raison.
Fit enfin la voix de Jennifer.
Mélanie Belvoir a demandé un transfert d'appel chez Laurent Luisant. Je suppose que tu veux l'adresse. Danemarie, dans le Doubs, au 456, route de Villars. T'es au courant que c'est strictement confidentiel ce que je fais. Tu lui veux quoi à cette Mélanie ? C'est une ex ? Ça a un rapport avec la liste d'hôpitaux que je t'ai fournie avant-hier ?
Marc nota l'adresse fiévreusement sur le premier papier qui lui tomba sous la main, la une de l'Est républicain. T'es la meilleure, Gégé. Tu l'auras, ton resto. Et peut-être bien aussi les dragées. Je peux te demander un dernier service ? Tu es sur Internet, là ? Jennifer soupira.
Ouais.
Tu te connectes sur Mappy et tu m'indiques l'itinéraire le plus court pour trouver le 456 route de Villars.
Oh putain, je dois vraiment être trop conne. Tu sais où tu peux te les coller, tes dragées ?
Le camion Citroën rouge et orange gravissait lentement la départementale 34. Après Montbéliard, la route montait directement vers la frontière suisse, 10 kilomètres plus loin. Le pied de Marc restait collé au plancher, mais ça ne semblait pas motiver son véhicule. L'urbanisation continue de l'agglomération se mitait au fur et à mesure que l'altitude croissait. La départementale serpenta un moment au pied d'un torrent pour s'élever encore. Les villages devenaient rares, seuls quelques chalets épars attestaient encore d'une occupation humaine au pied des sommets. Le bourg de Danemarie se dévoila au détour d'un lacet. Le chalet de Mélanie Belvoir-Luisant, selon les indications de Jennifer, se situait juste à la sortie, encore plus haut, vers la Suisse, sous la ligne de crête. Le Citroën s'engagea dans le village désert. Il était tout juste 8 heures du matin. Il n'y avait même pas une boulangerie ou un café ouvert. Un dernier tournant, il sortait déjà du village. Marc pila. Il enclencha la marche arrière et, au prix d'un créneau compliqué, se gara le long du trottoir. Il n'allait pas une fois de plus se jeter dans la gueule du loup. Crédule Grand-Duc devait sans aucun doute lui aussi pister cette Mélanie Belvoir. Depuis toutes ces années de visite à Dieppe, le détective avait appris à connaître le camion orange et rouge. Difficile de le rater. Rouler jusqu'au domicile de cette Mélanie en Citroën équivalait à débarquer chez elle en sonnant du clairon. Il faisait frais. Marc avançait d'un bon pas, en prenant soin de progresser sur le talus, en dehors de la route. Il aperçut la Xantia après le troisième lacet. La voiture était dissimulée dans un chemin sur le côté de la route. Juste au-dessus, il repéra un chalet isolé, celui de Mélanie Belvoir, sans aucun doute. Marc se hissa encore sur le talus, dans l'herbe mouillée de rosée. Il avança. Même dans le rétroviseur de la Xantia, on ne pouvait pas le repérer. Crédule Grand-Duc attendait, calmement, une tasse blanche à la main, ne se doutant de rien. Marc continua de progresser à couvert. Il savait qu'en cas de besoin, il pourrait toujours se servir du Moser emprunté à Malvina. Mais son plan, si l'on pouvait parler de plan, était tout autre, plus direct. Crédule Grand-Duc approchait les 65 ans. Marc en avait 20 et disposait d'une condition physique de rugbyman. Ils allaient s'expliquer entre hommes. Crédule Grand-Duc n'eut pas le temps de réagir. La portière de la Xantia s'ouvrit brusquement. Une ombre surgit de nulle part, lui attrapa le bras, puis l'épaule. Il se retrouva projeté sur le chemin de terre, face contre sol. Il n'avait toujours pas pu distinguer son agresseur lorsqu'un violent coup de pied lui déchira les côtes. Il se tordit de douleur. Un deuxième coup de pied le toucha au coccyx. Le détective hurla. Son cri inachevé se perdit dans l'immensité du silence de la montagne. Un troisième coup de pied dans le bas du dos l'obligea à se retourner. L'ombre le dominait, debout, devant son corps ratatiné. Marc Vitral. Comment avait-il pu comprendre, le trouver, aussi rapidement ? Marc, articula Grand-Duc, comment as-tu ? Le détective cracha du sang dans la poussière et essaya de se relever. Le pied de Marc se posa sur sa poitrine. « Bouge pas. Ne bouge pas ou je t'écrase comme un cafard. »« Marc, qu'est-ce que... »« Ta gueule. Recommence pas ton baratin. 2 jours que je me les coltine, tes formules à la con. Ta vie, ton enquête et tes états d'âme de faux cul. » Marc pesa encore un peu plus avec son pied sur la poitrine de Grand-Duc. Le détective grimaça, peinant à respirer. Marc parla, lentement. On va pas jouer au chat et à la souris tous les deux. On va aller droit au but. Droit au but. Tu te souviens? Comme les matchs de foot que je regardais sur tes genoux à Dieppe. Sur les genoux de l'assassin de mon grand-père. De ma grand-mère aussi, si t'avais pu. Marc, tu ne crois pas que... La semelle de Marc se posa sur le visage de Grand-Duc, écrasant à la fois son menton, sa bouche et son nez. Le détective se tordit de douleur, suffoquant. Lorsque Marc releva son pied, il cracha un mélange de sang et de boue. « J'ai plus le temps d'écouter tes bobards, crédule la bascule, crédule la balance, je devrais dire. » Le détective cracha encore. Il semblait avoir du mal à respirer. Comment as-tu ? C'est les Carville qui te l'ont dit ? Mathilde ? Malvina ? J'ai deviné tout seul, figure-toi, tout seul comme un grand. Je ne voulais pas, il faut que tu me croies. J'ai juste obéi. J'ai regretté. J'étais sincère. Ensuite, j'aimais... Le coup de pied atteignit cette fois la clavicule de Grand-Duc. Le détective roula une fois sur lui-même, avant de se retrouver à nouveau sur le dos. Sa main ensanglantée toucha son épaule. « Arrête, Marc, arrête, je t'en prie !»« Ferme-la alors. Épargne-moi le couplet sur les remords, sur le bourreau amoureux. Je suis pas là pour ça. C'est l'identité de Lily que je veux, la vérité. » Pour la première fois, une sorte de sourire fendit le visage défiguré de Grand-Duc. « T'as pas compris alors, hein ? Pas tout du moins. T'as encore au moins un peu besoin des services du détective. » Le pied de Marc se leva à nouveau, menaçant. « Pas sûr ? À toi de me prouver le contraire ? Comment tu m'as retrouvé aussi vite ? Je suis moins lent que toi, c'est tout. Cherche pas à gagner du temps, je n'en ai pas à perdre. C'est quoi cette histoire d'ADN et cette photo de Lily dans le journal ? » Crédule, Grand-Duc essaya encore de sourire. « Pour ton grand-père, quelqu'un m'a vendu ou tu as vraiment deviné seul ?»« Tout seul. Je te l'ai déjà dit, je t'avais prévenu, cherche pas à gagner du temps. » Un nouveau coup frappa le détective dans les côtes. Il hurla en roulant sur le côté. Marc avait envie de le piétiner. Il avança. Grand-Duc se tordait de douleur, son bras se perdait le long de sa jambe. Marc comprit immédiatement ce qu'il cherchait, à saisir une arme. Heureusement, Marc avait anticipé. Il plongea sa main dans son sac pour attraper le Mauser et le braquer avec... Le sac était vide. Le Mauser avait disparu. Marc revit les images défiler. Malvina, cette nuit, debout, réveillée, pendant qu'il dormait, feignant un cauchemar. Trop tard pour les regrets. Crédule, Grand-Duc pointait sur lui son matéba.
« Ah, tu t'es montré très rapide, Marc. Vraiment, je suis impressionné. Mais tu t'es laissé emporter par tes sentiments. Classique. Tu avais pourtant toutes les cartes en main. Un vieil homme à tes pieds. La solution qui t'attendait sur le siège passager de la Xantia. La suite, la fin de mon fameux cahier. Une enveloppe qui explique tout. Que j'espère bien monnayer une fortune. Tu n'avais qu'à te baisser pour la ramasser. »
Crédule, Grand-Duc se leva en titubant. Sa lèvre fendue saignait abondamment. Sa longue veste écrue était souillée de terre et de sang. Le détective peinait à se tenir sur sa jambe droite. Aucun mot ne parvenait à sortir de la gorge de Marc. Il allait échouer si près du but, stupidement.
« Ah, tu m'as pas mal amoché, mon salaud. Tu n'y es pas allé de main morte. Remarque, je reconnais que je l'ai bien mérité. J'aurais fait pareil à ta place. » Pire même.
Le détective marcha un peu, touchant de son bras valide son épaule endolorie et braquant toujours Marc de l'autre.
Tu ne me laisses pas le choix, Marc. Tu t'en rends compte? Tu es le seul à connaître la vérité pour le meurtre de ton grand-père. Le seul vivant, maintenant. À l'exception du commanditaire, bien entendu. Mais le vieux Carvin n'est pas prêt de cracher le morceau. Te tuer... Et la dernière chose dont j'aurais eu envie, Marc. Mais comment veux-tu que je fasse autrement ?
Les mots sortirent enfin. Marc parla doucement, tournant les yeux vers la Xantia.
Nazimozan aussi, tu ne pouvais pas faire autrement, c'est ça ?
Le détective prit difficilement appui sur sa jambe blessée.
Ah, tu vois, Marc, la vie nous réserve bien des surprises. C'est difficile de nager contre le courant. Pire encore de remonter les cascades. Il y a 6 jours, j'allais me tirer une balle dans la tête, crever chez moi, tout seul, game over, à quelques minutes près. Aujourd'hui, j'ai gagné la partie, et pourtant, malgré moi, j'ai dû assassiner de sang-froid les 2 personnes qui comptaient le plus pour moi. Nazim, Ozan et Eila. Les 3, avec toi.
Marc grelottait. Il sentait tout son corps se glacer. 3 mètres le séparaient du détective et du canon du Matéba. Il était vain de tenter d'avancer, de tenter de désarmer Grand-Duc. Il l'abattrait au moindre geste. Marc en était persuadé. La petite route de montagne demeurait désespérément déserte, et de toute façon, dissimulée dans leur chemin, il était quasiment impossible de les apercevoir.
« Marc, laisse-moi t'expliquer. On m'a payé une fortune pour assassiner un couple. » Maquiller le crime en accident. J'avais déjà tué aux 4 coins du monde, plusieurs fois, pour un misérable salaire de mercenaire. Rien à voir avec le pactole offert par Léonce de Carville. Une telle proposition ça se refuse pas. Pouvais-je prévoir alors, Marc, que j'allais m'attacher à la femme qui survivrait ? Qu'il se taise. Grand-Duc n'était même pas fou. Il n'avait même pas cette excuse. Ces mots sortirent de la bouche de Marc malgré lui. Espérait-il encore émouvoir cet homme ? Ces mots sortirent de la bouche de Marc malgré lui. Espérait-il encore émouvoir cet homme ? Lily est enceinte. De moi. Elle va se faire avorter dans une heure. Le revolver ne trembla pas. Ça devait arriver, Marc. C'était dans la logique des choses. Tu as eu tort de venir fouiner. Tellement tort. Tu aurais pu vivre heureux avec Lily. Formiez un joli couple. Un très joli petit couple. Lily sera inconsolable. Mais tu ne me laisses pas le choix. On ne va pas traîner, hein ? Grand-Duc pointa le Matéba en direction du cœur de Marc, tétanisé, incapable d'un geste supplémentaire. Tout allait se terminer là. Étrangement, des images joyeuses de la rue Pochol lui revenaient. La Coupe du Monde 86, le pénalty de Fernandez, le maillot de Didier Six, les notes du piano de Lily.
Ah, tout ceci n'aurait jamais dû arriver, Marc. Toute cette peine, toute cette douleur. Ce n'est la faute de personne. De Mélanie Belvoir, peut-être. Mais elle aussi croyait agir au mieux.
Je dois bouger, pensa Marc, lui plonger dans les pieds. Comme si Grand-Duc avait deviné son intention, il se recula tout en serrant le revolver.
On s'accroche à la vie, Marc. C'est bien ça le problème. Tout le problème est là, même quand il n'y a plus d'espoir. Toute cette guerre entre les Carville et les Vitrales était une guerre pour rien, comme toutes les guerres, un malentendu. Tu as compris la vérité maintenant, je pense. Elles sont mortes, toutes les deux, Marc. Ce soir-là, sur le Mont Terrible, Émilie et Lise Rose. Elles sont mortes, toutes les deux, dans l'accident. Crois-le bien, j'en suis désolé, Marc.
Le doigt de Grand-Duc pressa la détente. La détonation, dans le silence du matin blanc, se propagea d'un sommet à l'autre. Son écho dut s'entendre jusqu'en Suisse.